chronique bioéthique du professeur Rosmini. Une exploration cinématographique de questions contemporaines qui nous concernent tous. Vous,
moi,
nous, pour aujourd'hui et demain. Notez bien.
Les chroniques bioéthiques du professeur Rosmini.
Par principe, je ne négocie pas avec ces gens-là.
Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Nous allons protéger nos concitoyens.
Ne vous laissez pas leurrer, mes frères. Les humains frapperont les premiers. Lorsque le vent s'apaise et que la nuit est tombée, une seule question importe. Avec qui faire front?
Une grande société pharmaceutique a découvert le moyen d'éliminer le gène mutant X, définitivement. Ils disent vouloir nous guérir.
Il n'y a rien à guérir. À ma connaissance, aucun d'entre nous n'est malade.
Tu sais mieux que quiconque à quelle vitesse une tempête peut se lever.
Tu as trouvé ce que tu cherchais?
Leur remède est en réalité un mutant. Beaucoup plus fort que vous.
Quelque chose l'a réveillée, mais il nous faut la contrôler.
Quelquefois, quand on enferme une bête...
Non, je ne peux pas.
Elle devient agressive.
Chers auditeurs, bonjour. Nous entendons beaucoup parler en ce moment de transhumanisme, de post-humanisme, d'hommes augmentés. Et ce qui est commun à tous ces concepts, c'est l'idée que l'humanité devrait prendre en main son destin biologique, en quelque sorte, et donc éliminer le hasard. L'idée, ça serait de passer donc d'un modèle darwinien où l'évolution de l'espèce se fait selon le hasard des mutations génétiques et le fait qu'elle soit plus ou moins adaptée à un contexte, au fait de maîtriser techniquement l'évolution de l'espèce, voire l'invention d'une nouvelle espèce, hein, le post-humanisme. Cette idée de hasard, de gènes, de mutations peut être abordée en nous intéressant à la série de films des X-Men. Vous savez, les X-Men, et notamment... un film en particulier de Brett Ratner qui est sorti en 2006 et qui s'appelle X-Men, l'affrontement final. Alors dans l'affrontement final, on n'a pas vraiment à faire une réflexion sur le transhumanisme, mais presque à l'inverse en fait, hein, puisque les X-Men, vous le savez, sont des humains qui, à cause d'une mutation génétique liée au hasard, ont des super pouvoirs, des capacités totalement hors normes. Et dans l'affrontement final, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un scientifique qui s'appelle Warren Warrington, qui a inventé un sérum pour supprimer ses super-pouvoirs. En fait, l'idée, c'est que grâce au sérum de Worthington, les X-Men redeviennent des homo sapiens comme les autres. Et donc, c'est un sérum qui supprime les effets. Donc, ici, on n'est pas dans une recherche de l'homme augmenté, mais on est plutôt dans une recherche d'un homme qui est déjà augmenté par hasard, par l'hasard des mutations, qui redeviendrait un homo sapiens. Alors, bien sûr... ce film pose, comme beaucoup de films de la série des X-Men, la question du rapport entre le normal et le pathologique. Les mutants, d'ailleurs, sont très partagés par rapport à ce projet de sérum et ce projet donc, de transformation radicale. Certains sont tentés par cette proposition pour être, entre guillemets, comme tout le monde. Et puis d'autres, au contraire, se révoltent. Alors la révolte, elle est menée par Magneto dans le film. Hein, Magneto qui refuse tout d'abord qu'on pathologise la différence. L'idée, c'est que Magneto considère que les X-Men sont certes différents, mais que ce n'est pas une pathologie, loin de là. Il redoute, comme d'autres mutants, une forme de bio-normalisation. En effet, dans le film, dans la première partie du film en tout cas, on sent qu'il y a une forte pression sociale en fait, pour que les mutants acceptent de se faire injecter le sérum. On peut ici parler de biopolitique. La biopolitique, c'est lorsque, en fait, une pression sociale, lorsque les normes, les mœurs, les normes de la société incitent l'individu justement à se bio-normaliser, à transformer son corps, à agir sur son corps dans une optique de normalisation. Donc c'est vrai que dans le film, on le voit au début, il y a un regard assez stigmatisant sur les mutants, hein, qui font l'objet de certains propos intolérants. Et à cet égard, d'ailleurs, ça pose la question, bien sûr, est-ce que leur choix est vraiment libre et éclairé? Puisque l'idée, c'est que, en fait, ils ont la possibilité de se faire injecter le sérum, ils ne sont pas obligés, sauf que la pression sociale fait qu'on peut douter de cette liberté. Et puis plus tard dans le film, bon, je dévoile un petit peu le scénario et la fin, plus tard dans le film, il va y avoir vraiment une guerre en fait, hein, entre les rebelles menés par Magneto et puis le pouvoir. Et là, alors le sérum n'est plus du tout proposé aux mutants, mais il est imposé comme une arme de guerre. On leur tire dessus avec des seringues. Et donc ici, on n'est plus vraiment simplement dans la biopolitique, on est vraiment dans le biopouvoir. Alors paradoxalement, c'est sûr qu'on peut se dire qu'il est plus facile de résister au biopouvoir qu'à la biopolitique. Parce que la biopolitique, elle est sournoise d'une certaine manière. Hein. Elle joue sur l'influence, elle joue sur les représentations. Alors que le biopouvoir, ben, finalement, il annonce la couleur, il dit ce qu'il veut faire. Magneto, comme vous le savez sans doute, Magneto est un personnage qui est rescapé des camps d'extermination nazis. Hein, Magneto, quand il était petit, il était dans un camp d'extermination. Et justement, quand Magneto veut mobiliser les mutants pour refuser ce sérum qui les rendrait normaux, entre guillemets, qui ferait d'eux des homo sapiens, eh bien Magneto, il utilise bien sûr cette référence au nazisme. Il utilise ce que Léo Strauss, le philosophe, appelait la réductio ad Hitlerum. Vous savez, quand on veut stigmatiser une technologie, on dit, regardez, les nazis ont fait pareil. Voilà, c'est l'argument d'autorité. Ça m'a fait penser, d'ailleurs, en voyant ce film, à un mouvement qui a eu lieu il y a quelques années, qui était le mouvement des sourds en colère. Alors, je voudrais en dire deux mots, mais je m'écarte un petit peu du film. Les sourds en colère, certains sourds, dans les manifestations, portaient justement un triangle bleu. Et le triangle bleu, c'était le signe des personnes handicapées dans les camps de concentration. Donc, il y avait là aussi une référence directe aux politiques nazies. Alors, de quoi s'agit-il, les sourds en colère? Bien, il y a quelques années, il y a eu un projet de loi pour proposer des implants cochléaires précoces. Alors, l'implant cochléaire, donc, c'est un implant technologique qu'on greffe sur l'oreille d'un enfant dont on détecte la surdité. Alors, l'argument médical, c'est que plus un individu est greffé tôt dans sa vie, hein, plus l'implant cochléaire est proposé tôt, et plus c'est efficace, plus le cerveau peut s'adapter. Donc, l'argument médical, c'était ça. Mais il y a eu, en fait, un grand mouvement de révolte de nombreuses personnes sourdes qui ont manifesté de bien des manières contre cette politique d'implant cochléaire précoce, donc sans le consentement, évidemment, du bébé, qui ne peut pas consentir, qui considérait en fait que c'était une agression, que la surdité n'était pas un handicap mais une différence, que ce n'était pas une maladie mais que c'était une identité en quelque sorte, et que ces personnes, j'avais même entendu dans un débat une personne sourde qui avait dit « moi si mes parents m'avaient implanté un implant cochléaire malgré moi quand je suis né, je porterais plainte contre eux ». Je verrais ça comme une intrusion illégitime dans mon corps et dans mon identité. Ils avaient aussi revendiqué à ce moment-là un attachement à la culture, la langue des signes par exemple. Ils disaient, voilà, ben, si on fait un implant cochléaire à tout le monde, il n'y aura plus de culture sourde, la langue des signes va disparaître. Or, c'est une culture à laquelle nous sommes très attachés. Et tout ça nous amène bien sûr à réfléchir sur la relativité des normes. Hein, quand on parle d'hommes augmentés ou d'hommes diminués, que sais-je, eh bien, augmentés selon quels critères? Pour beaucoup de gens, on va considérer que faire en sorte qu'une personne sourde ne soit plus sourde, c'est l'augmenter ou du moins la réparer. Eh bien, pour certains sourds, au contraire, c'était vécu comme une très grande violence. Et dans l'affrontement final, donc dans le film de X-Men dont je parle, il y a la même réaction des mutants. Certains, comme je l'ai dit, donc refusent complètement de pathologiser leur différence et donc de la médicaliser. Puisque s'il y a un traitement, ça veut dire que c'est une pathologie, que c'est une maladie, qu'il faudrait guérir. Il y a un parallèle ici dans le film sur lequel le réalisateur insiste peut-être un petit peu lourdement d'ailleurs, mais bon, entre le sérum donc de Workington et puis l'homosexualité. L'homosexualité, on le sait, dans beaucoup de courants idéologiques, est pensée comme une maladie, une pathologie, dont on peut éventuellement guérir. Il y a encore des gens qui pensent ça au XXIe siècle, même si ça paraît étrange. Et dans le film, donc, il y a des allusions assez précise à ça, puisque en fait, dans la toute première séquence, hein, qui est un flashback, en fait, on se rend compte que si Workington, le scientifique, a voulu mettre au point ce sérum, c'est parce que son propre fils est un mutant. Mais il n'a pas n'importe quelle mutation. Hein. Il a une mutation. En fait, il a des ailes blanches qui lui poussent dans le dos. Et en fait, la manière dont le personnage est filmé, et puis la manière aussi où il découvre quand il est enfant, donc où le scientifique découvre que son fils a cette différence, disons, eh bien, il y a plein d'allusions justement à l'homosexualité. Et puis il dit « Oh non, pas toi », etc. Et donc, on a affaire aussi dans le film, comme on a pu avoir affaire avec l'homosexualité, une sorte d'inversion du stigmate. C'est-à-dire que la différence qui est rejetée par la société, le fait que la société rejette soit le mutant, soit l'homosexuel, soit le sourd ou ce que vous voudrez, eh bien en fait ça devient un objet de fierté justement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est revendiqué comme quelque chose dont on est fier, qu'on veut mettre en avant et qui fait partie de notre identité. Voilà, donc ici il y a un parallèle vraiment à faire entre les X-Men, l'homosexualité ou bien la surdité par rapport au mouvement dont je parlais. Alors, effectivement, dans le film, donc, il y a deux discours qui sont très, très différents hein, l'un de l'autre. Donc, il y a l'histoire du scientifique, de Warrington, qui dit qu'il faut plaindre les mutants de leurs différences, il faut les guérir, malgré eux s'il le faut, dit-il. Hein. Voilà, il faut faire leur bien malgré eux, parce qu'il faut, voilà, il faut les plaindre. Et puis Magneto qui dit ceci, je cite, « Ils prétendent nous guérir, mais nous sommes le remède à cette infirmité, à cette imperfection nommée Homo sapiens. » Fin de citation. Voilà, donc là, il y a vraiment une inversion totale du stigmate, c'est-à-dire... Vous m'estimez comme moins, bien je vais vous montrer que je suis plus. Et donc ici, il y a un parallèle bien sûr avec le transhumanisme. Hein, quand Magneto dit qu'il faut guérir l'humanité de l'imperfection qui est l'homo sapiens, eh bien on est vraiment dans une allusion au transhumanisme dont je parlais au début de cette chronique, qui est basée justement sur l'idée que l'être humain serait trop limité et qu'il faudrait à tout prix le dépasser. Alors soit en créant une nouvelle espèce, ça c'est une possibilité, c'est-à-dire en transformant l'ensemble de l'espèce, soit au contraire en donnant à chacun les moyens, un peu comme dans X-Men, de se singulariser, chacun d'être différent. Alors dans ce cas-là, il n'y aurait effectivement plus vraiment d'espèce humaine, donc nous n'aurions plus d'appartenance à une espèce commune, ce qui peut poser bien sûr des problèmes éthiques et politiques très importants. Qu'en est-il de la réciprocité des droits et des devoirs si nous avons tous des capacités différentes ? On sait que l'esclavage, l'apartheid et toutes ces catastrophes ont été toujours basées sur l'idée que nous n'appartenons pas justement à la même espèce. Or aujourd'hui, il y a un vrai risque quand même qui existe, qui n'est pas négligeable, de voir l'espèce humaine se fragmenter. Il existe par exemple aujourd'hui un mouvement qu'on appelle le body hacking ou le biohacking, avec des gens qui se considèrent comme des auto-cyborgs, donc ils se font greffer des puces, du matériel informatique dans leur propre corps, hein, par exemple, qui leur permet d'avoir une vision infrarouge, ça se fait déjà, ou d'avoir une boussole interne. Il y a un monsieur qui s'appelle Livio Babitz qui s'est fait greffer une prothèse qui s'appelle NordSense, qui lui permet de vibrer quand il est face aux nord magnétiques. Alors bon, est-ce que ça a un intérêt ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, est-ce que nous appartenons encore à la même espèce de quelqu'un qui vibre quand il est face au nord ? Je ne sais pas. Et ça pose plein de questions, bien sûr. Hein. Ça pose des questions ontologiques, c'est-à-dire, voilà, est-ce que nous partageons le même type d'être avec ces body hackers ? Ça pose aussi des questions juridiques et politiques. Par exemple, est-ce qu'il faudrait ou pas des lois pour interdire aux humains de se body hacker, de se rajouter des prothèses ? Est-ce que ces lois ne seraient pas excessivement liberticides ? Voilà, est-ce qu'on ne serait pas justement dans le biopouvoir que je décrivais tout à l'heure ? Si la loi m'interdit de me greffer un implant pour voir les infrarouges ou pour ressentir le nord, est-ce que ce n'est pas me priver d'une liberté fondamentale de faire ce que je veux de mon corps ? Puis il y a aussi la question de savoir bien sûr si ces lois seraient efficaces, parce que pour être efficace, il faudrait qu'elles soient internationales. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, le droit international en matière de bioéthique n'existe quasiment pas, et quand il existe, il est peu respecté. D'ailleurs, dans le film, à la fin, dans le film, il y a un personnage intéressant, c'est le fauve. Hein, c'est Hank McCoy, qui est un mutant lui-même, hein, c'est le fauve. Et alors d'abord, au début du film, il est ministre des Affaires mutantes, et puis à la fin du film, il est carrément représentant à l'ONU. Voilà, il est représentant des hommes et des mutants à l'ONU. Donc il y a une sorte de happy end comme ça, mais en fait, cette fin heureuse, on a l'impression que le réalisateur n'y croit pas vraiment lui-même non plus. Peut-être parce qu'il a conscience, comme je l'ai dit, que les chartes internationales en matière de bioéthique ou de transhumanisme, en fait, sont des déclarations d'intention qui sont très très peu respectées en réalité. Surtout qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est un point essentiel sur lequel j'insiste souvent, que la plupart de ces recherches de bio-augmentation, de neuro-augmentation, etc., sont faites dans des contextes militaires. Donc, des contextes militaires, ça veut dire avec des finalités pour le moins discutables moralement, et puis surtout dans une très grande opacité. Quel est le pouvoir de contrôle d'un citoyen européen, disons, sur les recherches sur l'augmentation génétique ou les manipulations génétiques dans l'armée chinoise ? Vous voyez, ben, en fait, il est nul, il faut bien le reconnaître. Et je voudrais terminer sur une question peut-être un peu paradoxale, puisque moi-même je m'intéresse beaucoup à la bioéthique, j'ai même publié un livre sur ce sujet, donc la question pourrait être paradoxale, mais c'est vrai que je me demande souvent si face à la puissance de l'argent et face à la puissance des armées, il n'est pas en fait totalement vain de se poser toutes ces questions de bioéthique, voilà, de philosopher sur ces questions. Est-ce que c'est pas en fait perdre son temps, parce que de toute façon, nous n'aurions en fait quasiment pas de prise. Et c'est sur cette hypothèse un petit peu pessimiste que je vous remercie pour votre attention.
Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qui nous attend.
Une furie telle que le monde n'en a jamais connue.
Magneto a une véritable armée. La guerre, t'es jamais sûr d'en revenir. On n'est pas sûr qu'elle, elle en reviendra, ça te fait pas peur?
On n'est plus les enfants.
Hey, je suis pas ton père, moi. Si tu veux partir, sois sûr que tu le veux vraiment.
On a un choix à faire. Si tu es avec nous, eh bien montre-le.
Ils prétendent nous guérir. Moi, je dis que le remède, c'est nous.
Regarde-moi, Jean. On peut t'aider. On peut réparer. Tout rendre comme c'était avant. Reste avec moi.
Je t'en prie. Suis-moi.
Les chroniques bioéthiques
du professeur Rosmini
à retrouver sur radiogrenouille.com.